Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Henri Lecomte. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis. Soyez prêts.
La première fois que je l'ai vu, j'avais 5 ans, devant ma télé, et je ne mesurais pas vraiment la portée de l'exploit. Je suis juste content, on a gagné. C'est par la suite que je me suis rendu compte, l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Il y a le résultat bien sûr, mais il y a la manière. Ce qui est important, c'est ce qu'il se passe autour. Son retour de l'enfer, sa carrière, ses coups de gueule, ses regrets. Henri Lecomte, comme on l'aime, sans filtre. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Bonjour Henri, on se voit ou on se tutoie ?
On se tutoie. Non, on va pas commencer à la jouer à l'envers. On se tutoie, ça va être plus simple.
Parfait. Si j'ai eu envie d'enregistrer avec toi en cette période, c'est qu'il y a 30 ans, tu as été le héros d'un des plus grands exploits du sport français de l'histoire. C'est la finale de la Coupe Davis en 1991 à Gerland. Mmh. Et j'ai envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette finale, elle a pour point de départ une chambre d'hôpital, non ?
Oui. Même si on commence bien sûr pour le... Toute cette campagne était complètement folle, mais c'est surtout la dernière, et plus exactement, c'était cette demi-finale à Pau, où c'est là que tout a commencé, où j'ai eu une discussion avec Yannick et Patrice, juste à la fin de cette qualification, puisqu'on gagne 3-0 en deux jours, mais on fait plutôt 5-0, avec une équipe en face, une Yougoslavie qui était vraiment très amoindrie, mais bon, ça fait partie du jeu. Nous, on s'est engouffré dedans et Patrice Gelauer et Yannick, on a eu une discussion devant la piscine de l'hôtel à Pau. Et j'étais, moi, franchement, j'étais venu parce que les encourager, parce que je venais juste de me faire opérer du dos, je marchais à peine et c'était douloureux pour moi. Donc, ils m'ont dit bah, écoute, Henri, si on doit gagner la Coupe Davis, c'est avec toi. Parce que déjà, tu fais partie de la campagne. Et ils sentaient que c'était un moment clé pour moi, pour ma carrière. Et en plus de cela, on était invaincus avec Yannick en Coupe Davis, en double. Donc c'était quand même, on allait jouer la meilleure équipe du monde.
Avec Guy, tu veux dire ?
Avec Guy Forget. Avec Guy Forget, on allait jouer les Américains. Et c'était la meilleure équipe du monde de double.
En quoi c'était un moment clé pour toi dans ta carrière, tu viens de dire ?
C'est un moment clé parce que c'est une remise en question totale. C'est, si tu veux un petit peu de ma carrière, j'ai fait une très bonne année en 86, 87. 88, je fais Roland-Garros, la finale. Après, c'est la descente aux enfers, puisque malheureusement, même si j'ai quand même gagné à Bruxelles en 88, le tournoi, mais mon discours, le fait de mettre à dos pas mal de gens, les Jeux Olympiques, ça s'est très, très, très mal passé. Je joue après McEnroe à Bercy au premier tour. C'est les longs d'oiseaux qui voltigent, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai senti que c'était pour moi une renaissance.
Donc, tu as dit que c'était une blessure au dos, c'est ça ?
Mais troisième hernie discale opérée. J'en ai eu déjà deux auparavant, en 87, 89 et 91.
Donc, trois fois six mois, quoi.
Enfin, là, non, un peu moins, deux mois et demi. J'ai accéléré un peu sur celle-là, de la dernière.
Tu étais retombé à la 159e place mondiale. Mmh. Tu y croyais toujours au fond de toi ? Ou tu disais...
Ah, bien sûr. Ouais. Non. Disons que j'étais un peu habitué à ce genre de situation de très bien jouer. J'étais un peu, en fin de compte, avec une carrière moins prestigieuse, le Del Potro d'aujourd'hui. J'étais fragile. J'avais un problème au dos, j'étais opéré du genou. Une fois, je me pète la main aussi. Et donc, à chaque fois, je faisais l'ascenseur, quoi. Et Del Potro, quand tu vois, c'est du cristal, c'est pareil, il y a eu énormément de problèmes au poignet. Donc, ça me faisait pas peur, ça. J'étais pas trop angoissé là-dessus. J'avais plus peur de, en fin de compte, qu'on ne m'aime pas et qu'on On ne dit pas Henri, voilà, il est capable de faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que cette Coupe Davis a été très importante.
Pete Sampras, 6e mondial. André Agassi, 10e mondial. Flack et Seguso en double. Les États-Unis sont grandissimes favoris avant le match. Tu avais fait partie de la campagne en 82.
Oui.
La finale à Grenoble, défaite contre les États-Unis. Avant la finale, vous êtes parti en stage de préparation à Montreux. Est-ce que pendant le stage, tu as senti quelque chose de spécial ?
Bon, bien avant déjà, puisqu'il y a eu quand même une préparation, un test où j'ai joué en double avec Yannick à Bercy, où on fait quart de finale quand même. Donc ça veut dire que j'étais dans la bonne direction. Après, je suis parti aussi au Danemark pour faire un tournoi où je suis allé en finale en double avec Ben Abiles, où je perds au premier tour en simple. Mais je n'avais pas joué depuis 2 mois et demi, 3 mois. Quoi. J'ai pas de point de repère. Et donc ça déjà, c'était quelque chose d'important. Mais par la suite, ce qui était encore plus fort, c'est que lorsqu'on est arrivé au stage de Montreux, qui a été une préparation incroyable, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est qu'on a passé un mois. Alors bien sûr, c'était plus simple qu'aujourd'hui. On n'avait pas de portable, on n'avait pas de télé dans les chambres, on n'avait pas le droit de lire les journaux. On était vraiment dans une autarcie complète. On était enfermés, on était tous ensemble.
Il a duré combien de temps le stage ?
Il a duré 10 jours, une dizaine de jours. Bon, c'était tout préparé aussi un peu avant, chacun de son côté. Donc il y a eu 10 jours, un peu plus de 10 jours, et puis encore la semaine de les 4 jours de préparation pour le match de Coupe Davis. On était une bande de potes avec des étoiles dans les yeux, avec une préparation assez incroyable avec Jean-Claude Perrin. Moi, je m'étais aussi bien préparé avec Patrick Chamagne au centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale à Douarnenez. Tu vois, c'était pas le 5 étoiles, hein, t'inquiète pas. C'était à Douarnenez, à côté de Tréboul, où là, j'ai rencontré aussi une personne fantastique qui est Gilles Solo. Si j'ai fait ce résultat, c'est aussi grâce à lui. Et j'ai une équipe de ouf. Mais j'ai tout réappris, à marcher, à courir, à servir, ne pas cambrer, travailler différentes postures. Donc c'était assez compliqué. Et puis tout d'un coup, j'arrive à Neuchâtel. À Neuchâtel, on joue, on fait le premier stage d'entraînement, on commence à faire les matchs. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe.
C'est vrai ?
Ouais, parce que je mets des pâtés à tout le monde. Mais des pâtés. Donc, je joue un tennis mais incroyable. D'ailleurs, à un moment, je me dis, est-ce que je joue pas trop bien trop tôt ? Tu sais, ouais. Et parfois, tu peux être un peu en décalage. Et on sent que ça monte en puissance, en puissance, en puissance. Et il y a une chose qui a été vraiment très, très intelligente de la part de Patrice, Agel et de Yannick, c'est que je n'ai jamais, mais jamais joué en simple contre Guy. Parce que Guy est complètement différent. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même préparation. Lui, il a besoin d'être beaucoup rassuré, de taper beaucoup de balles, quand ça ne va pas, il retape encore une heure. Mais si, imagine que je joue contre Guy et que je le bats facilement.
Ouais.
Il va dire, mais je ne suis pas au niveau. Ouais. Et ça aurait pu être dangereux. Même si, bon, on sait comment ça s'est passé, la finale, mais et ça, c'était une intelligence aussi de tout le staff, de ne pas nous mettre en compétition. Moi, je pouvais mettre des pâtés à tout le monde, mais pas à Guy.
Okay.
Et après, on s'est vraiment préparé pour le double. Donc, la suite a été extraordinaire, parce que, évidemment, Jean-Claude Perrin nous a fait faire des trucs de fou, c'était Terminator. Mais il nous a fait même aller dans le lac à 5h, 6h du matin. Non, mais là, mec, t'arrêtes. Mais extraordinaire, fantastique. Et ça nous a vraiment liés tous ensemble, quoi. Ça a été très, très fort.
Durant la semaine d'entraînement, tu mets des pâtés à tout le monde. Et arrive le premier jour et Guy Forget perd contre Pete Sampras. Et toi, tu rentres sur le terrain.
Non, mais il faut aussi un peu revenir en arrière, parce que ce qui est important, c'est le moment aussi où Yannick décide de choisir les joueurs. Donc c'est le mardi soir. Tu vois, il me convoque dans sa chambre avec Agel, avec Patrice. Et il me fait, bon, Henri, je viens de parler. Je dis, oui, je fais comme ça, je te jure. Je dis, oui, je sais, je vais jouer. Il me fait, non, mais Henri, tu vas jouer. Oui, je vais jouer. Non, mais pas en double. Oui, je sais, je vais jouer en simple. Moi, j'étais, tu sais, dans ma bulle.
Ouais.
Donc, c'était un moment quand même assez fort. Il m'a dit, voilà, Henri, tu joues. Je remercie. OK, Yannick, t'inquiète pas, je vais faire le maximum. Je rentre dans ma chambre, évidemment, je pleurais. Je remercie le bon Dieu. Tu peux pas imaginer ce que c'était pour moi. Et bah voilà, et après je suis rentré dans en immersion complète. Et pour moi c'était voilà, c'était normal. Tu vois, ça allait tout défiler tout doucement. J'étais dans ma zone. J'étais vraiment, mais alors incroyable. Jamais été comme ça. Peut-être une ou deux fois dans quelques matchs, mais là c'est vraiment sur une longue période, sur 3 jours, toi. Et donc Guy part, lui évidemment, jouer contre Agassi. Donc moi je reste à l'hôtel avec Bernard Montalvan, parce qu'on a décidé que je reste à l'hôtel pendant le premier set. Je suis dans le premier set, je déconnecte Bernard, tout ça, puis bon, je vois Guy qui commence à jouer, puis il perd en 4-7 malheureusement. Agassi jouait vraiment très très bien. Il avait du mal à jouer contre... Guy avait du mal à jouer contre lui, donc il perd en 4-7, évidemment, il rentre au vestiaire, et puis entre-temps, Patrice, il dit à Guy, écoute, essaie de pas trop parler à Henri, t'inquiète pas, lui, et puis après il partira avec Yannick. Donc Guy passe les vestiaires, et moi je suis déjà chaud comme une baraque à frites. Je vais le voir, je lui tape sur l'épaule, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, mon gars, dans 2 heures, ça fera un partout, je le mets une branlée à l'autre. Et là, je vois que dans les yeux de Guy, parce qu'il était allongé sur la table de massage, il me regarde, il me fait... Et il me l'a dit après, mais j'imaginais, il me dit, mais le mec est fou. Le gars, il est 154e mondial, je viens de battre Pete Sampras, qui est quand même maintenant 8e mondial, à la finale de Bercy, en 5-7, 6-4 au 5e, ou 7-5, je ne sais plus. Et là, il est en train de lui dire qu'il va mettre une branlée. D'accord. Donc, il dit rien. Ouais. Moi, je pars et on se retrouve avec Yann dans une petite pièce avant le match pour parler tactique. Ouais. Je rentre dans la pièce, il ferme la porte. Je lui dis, ah, Yann, t'inquiète pas, je lui mets tout branlé, je vais le déchirer, je vais le saisir la gorge et tout ça. Enfin, je sais plus ce que je dis vraiment, mais tout comme ça. Et Yann, il fait, ouais, allez, vas-y, on y va. Il m'a pas dit, non, calme-toi, tu vois. Et je suis allé sur le terrain, on s'est échauffé. Et au bout du 3e point, j'avais le point levé comme ça. Je sentais que dans le public, c'était un chaudron. Et c'était un match de fou, parce que Sampras, c'était son premier match de Coupe Davis. Faut pas oublier que ça. Hein. Et lui, à chaque fois qu'il se mettait en place pour servir, ça gueulait. Ouais. Tous les points. Tous les points. C'est comme ça. C'était un truc de malade.
Il y avait 8000 personnes à Gerland.
Mais c'était blindé. Je revois encore les images parce que je les vois beaucoup en ce moment. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Et puis, bah, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que je bats Pete Sampras 7-5, 6-4, 6-4. Je rentre dans les vestiaires. Guy était en train de se faire masser encore. Je lui fais, je t'avais dit, un partout. Ouais, on va gagner, c'est bon. Et puis après, il a fallu, bien sûr, remobiliser tout ça et puis se concentrer pour le double.
Tu disais avec Guy que vous étiez invaincu en double. Comment tu expliques cette invincibilité ?
Bah déjà, on se connaissait très bien. On avait exactement tous les deux, un peu comme tu as aujourd'hui Mahut Herbert.
Ok.
T'as Nicolas Mahut, c'est Guy Forget. Et t'as... comment il s'appelle ? Pierre Hugues, qui est moi, qui fait des coups de ouf. C'est exactement la même chose. Ça match hyper bien. Parce que Guy, en plus, il est du côté gauche. Parce qu'on est deux gauchers, en plus, ouais. Pas facile. Et moi, à droite, j'aimais bien, parce qu'avec mon revers, croisé, là, je lâchais des cacahuètes, des deux doigts, comme disait Jean-Paul, flom. Et on arrivait vraiment bien à s'entendre, parce qu'il y avait une vraie osmose. Et ça, c'est très important dans un double, parce que tu as toujours quelqu'un qui fait un petit truc supplémentaire de différent de l'autre. Parce que si tu joues toujours les deux mêmes, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que cette alchimie a très très bien fonctionné, et notamment contre Flack et Seguzo, parce qu'on avait quand même... Moi j'avais un contentieux avec eux. Hein. Bah, avec Yannick, finale de l'US Open, ils nous ont bien volé quand même. Donc moi j'avais qu'une envie, c'était... Et puis Yannick sur le banc, il me regardait, je sens qu'il avait la haine qui voulait les désinguer. Quoi. Donc, et on fait un double, on ne peut pas mieux commencer. Hein. 17 points de suite. On commence. Les mecs, ils touchent pas terre. 17 points de suite. Ils reviennent un peu dans la troisième manche et on gagne 6-3 ou 6-4 au quatrième. C'est moi qui sers cette fois. C'était extraordinaire. Et là, on sent qu'on a marqué l'histoire. Qu'on commence à marquer l'histoire parce qu'on fait... on sort, moi je me rappelle, je fais toujours encore 2-2, encore 1 point, un seul point. Et après, bah, Guy a fait un match extraordinaire. le dernier jour contre Pete Sampras, qui lui était déjà un peu KO.
Ouais.
Et voilà, 59 ans après, on marque l'histoire avec René Lacoste, avec Jean Borotra qui était là. C'est un truc de fou quand il pense.
Je me suis toujours posé la question, c'est, les observateurs sont d'accord pour dire que c'était toi le héros de ce week-end, mais est-ce que tu n'as pas un regret de ne pas avoir tapé la balle de match ?
Sincèrement, non, je préfère que ça soit Guy, okay. Tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que je trouve que c'est beau, c'est une harmonie parfaite. Guy avait perdu le premier match, moi je gagne le deuxième et il termine. Je trouve que ça ne peut pas mieux se finir.
Ouais.
Voilà. Guy a fait une saison extraordinaire, il méritait de finir sur ce point-là. Et dire après si j'aurais pu battre André Agassi. Bon, c'est vrai que je l'avais battu à deux reprises, mais tu vois, à l'US Open et à Wimbledon, mais bon, c'était une autre, une autre période.
Okay.
Non, c'était bien.
On va maintenant se plonger dans ta carrière. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit « le tennis, ça sera ma vie » ?
Depuis le début.
Depuis le début,
depuis que j'avais 15, 16, 17 ans, je me suis retrouvé à New York avec Tyriac, Villas, Nastas, puis Guérilletis qui arrive avec une Rolls jaune. Il sort, il a un long manteau, il a la serviette de l'US Open, il a 6 raquettes en bois. Le chauffeur est une très belle blonde. Il ouvre la porte de derrière et là, il y a 3 belles demoiselles qui sortent, qui suivent Vitas Guérilletis et qui dit bonjour à Guillermo, qui dit bonjour à Yon, Tyriac, à Ilinatas et à moi. Moi, je venais juste d'arriver, je dis bonjour. Et on discute un petit peu parce que je baragouinais l'anglais. Et je me retourne, je regarde Nastas et Villas et je fais, c'est ça que je veux. Parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, c'était des superstars. C'était Borg, McEnroe, c'était Guerru, c'était des méga stars. C'est comme les Stones,
ouais,
c'était les Beatles. C'était du grand n'importe quoi. C'était incroyable.
D'ailleurs, je me souviens d'images du documentaire de William Klein sur Roland Garros 1981, où on voit Borg sortir du vestiaire, habillé en ville, en chemise, très classe.
Y avait la classe, je ne dis pas qu'il n'y a pas la classe aujourd'hui, mais c'est différent.
C'est différent.
On n'a plus rien. Aujourd'hui, c'est du sport, pur. Avant, tu avais le sport, mais tu avais ce qu'il y avait en dehors. L'épicurien, la classe, les soirées, les dîners, toutes les différentes représentations, on était obligé de s'habiller, on était obligé. Toi, c'était.
T'aimais ça ?
Bah oui. Et puis en plus, j'étais avec des gens qui m'ont éduqué de ce côté-là, qui était Yon Tyriac, qui est un personnage extraordinaire, qui est mon deuxième papa, tu vois. Et Guillermo Villas, pareil. Moi, j'ai vécu la période aussi Guillermo Villas et Caroline de Monaco, tu vois, où j'étais obligé de. Je lui donnais ma 104 ZS que j'avais bleu roi où Caroline de Monaco la prenait et moi je prenais la Porsche de Villas pour emmener les paparazzi d'un autre côté, tu vois, avenue Foch.
Incognito.
J'ai vécu des trucs de fou. Donc quand tu commences à faire ça, tu te dis bon, t'as pas mal. Et puis après, bah, t'apprends, après tu travailles et puis tu bosses comme un fou. Tu t'entraînes 6 heures par jour, 8 heures par jour. Tu deviens sparring partner de Guillermo Villas. Tu pars en Australie et puis voilà. Puis après, on fonce, quoi.
Et après, tu rentres dans le top 10 en 1985.
Top 10, 85, premier tournoi en 82 à Stockholm. 85, après il y a eu 85, 86, 88, 92. Après, bon, voilà, il y a eu parsemé, bien sûr, d'embûches et de blessures. Mais...
Tu perds contre Vilander en 1985, en quart de finale. C'était comment de jouer Vilander sur terre battue ?
Là, c'était mon meilleur match, parce que je perds en 4-7. Je suis pas loin. C'était quand même impressionnant, parce que Mats, on ne peut pas comparer à nos joueurs, pas à Nadal, par exemple, parce que c'est autre chose, c'est une autre planète. Mais c'était le joueur de terre battue. C'était le nouveau Borg.
Ouais.
Qui n'a pas fait la carrière de Borg, parce que quand tu y penses, ce qu'a fait Björn Borg, raquette en bois, terre battue, la surface qui était la plus lente à l'époque, il se retrouve 15 jours après à Wimbledon sur un gazon où c'était de la glace, et la balle rebondissait à peine. Il se fait quoi, 6 fois et 5 fois ? c'est aussi monstrueux, quoi, tu vois. Et tu te dis, là, c'est totalement, c'est autre chose. Et donc, Vilander, c'est vraiment celui qui, bah, il a gagné Roland Garros, pardon, en battant Guillermo Vilas la première fois quand il est très très jeune. Et là, quand tu, voilà, tu joues lui, c'est, c'était solide, quoi.
Ouais. Tu joues Yannick en 8e et tu le bats en 5-7 cette année-là. On parle d'une rivalité entre vous. Est-ce que c'était vraiment le cas?
Bien sûr qu'il y avait une rivalité, mais une rivalité qui était à la fois saine.
C'était pour savoir qui était le numéro 1 français, c'est pour ça?
On avait besoin de ça. Je pense que moi, Yann m'a fait me dépasser, m'a fait aller dans une autre dimension. Si j'avais pas eu Yannick... C'est toujours important de vouloir battre son frère ou le meilleur joueur français de l'époque et de dire, voilà, non, tiens, c'est moi maintenant, t'as compris, je frappe à la porte. Et le fait de l'avoir battu à Roland-Garros dans son jardin, et en plus d'une façon 6-1 au 5e, en remettant une vitesse supplémentaire, tu passes un message. Et c'est important.
C'était ça ou c'était un peu la guerre?
C'est un combat de boxe. Il y avait à la fois beaucoup de rivalité avec l'entourage, okay. Ce qui était amusant. Il y avait de la rivalité entre nous, mais il y a eu du respect aussi. Et on se marrait parce qu'on faisait les cons tous les deux. Hein. T'inquiète, on n'est pas les derniers hein, à faire les fous furieux. Mais c'était bien. Elle était utile. Okay. C'était quelque chose d'important. Tu vois. Et moi, je l'acceptais. Bien sûr qu'il y a Yannick qui a gagné Roland-Garros et que moi, j'aurais voulu être le deuxième. Parce que j'étais pas loin en 88. Mais bon, j'ai mis les pieds dans le tapis.
Cette année-là, tu perds aussi en quart de finale de Wimbledon contre Boris Becker après avoir battu Lendl. C'est durant cette saison que tu t'es dit « Ok, je peux faire partie des tout meilleurs ».
Oui, parce que tu te dis, quand tu commences à battre les meilleurs joueurs du monde dans un grand chelem, ça n'a rien à voir que quand tu les bats dans un tournoi régulier. Premièrement, parce que c'est en 2-7. Et puis quand c'est les bancs en 8e ou en quart, c'est pas pareil quoi. Tu vois, tu passes un vrai message. Lendl, je bats en 4-7, je bats pas de cash aussi, tu vois, sur gazon. Donc je commence à m'installer. Mais manque de peau, il y a une espèce de spoons là, allemand, là, rouquin là, qui était sur ma voie. Mais,
Ouais, tu feras demi-finale en 86 contre Pernfors à Roland-Garros. Un match interrompu par la pluie.
C'est quoi là, je pense que c'est ma meilleure année pour pouvoir gagner. Inconsciemment. Je mène un set break, arrêté par la pluie, et là je deviens fou parce que il débâche et il remet de l'eau dessus. J'ai dit, il est encore plus lent le terrain là. Tu vois? Et je perds contre Pernfors en 4-7 pour jouer Lendl. Ouais, fabuleux. Ça aurait été fabuleux. Ben non.
D'ailleurs, Lendl, est-ce qu'il était aussi antipathique qu'on le dit?
Moi, j'avais de bonnes relations avec Ivan. Avec Ivan, il a toujours eu une image très dure. Il a un humour très sarcastique, tu vois, très. Alors, ouais, faut suivre de temps en temps. Mais je m'entraînais beaucoup avec lui. Parce que c'était quand même le précurseur des entraînements de dingo.
Hein. Il paraît.
Mais non, mais un malade. Oh, ouais, un fou. Bah, on a vu les résultats. Hein. Donc, c'était quand même un joueur extraordinaire. Très spécial. Bah, comme McEnroe, comme Borg, comme Yannick aussi. Hein. Yannick était spécial. Hein. Et tu vois, Nastase aussi, Panatta, tout le monde avait sa personnalité. Tu avais Edberg pareil, tu avais Mats, tu avais Lander, tu avais Boris Becker, tu n'avais pas de cash. Et là, tu en avais de la personnalité.
Hein.
Là, il y avait les mecs, fallait choisir. Hein.
Mais c'était les meilleurs.
Oui, mais parce que.
Les personnalités ne sont pas les meilleures.
Oui, non. Oui, mais parce que c'est différent. Oui, mais parce que aussi c'était, je pense, sincèrement, une éducation, une façon d'être. Aujourd'hui, on regarde plus ce que tu mets sur les réseaux sociaux que les résultats. Tu vois. Et c'est dommage. Et c'est peut-être pour ça aussi que le tennis a un peu de, tu vois, de comment te dire, un peu de mal en ce moment et qu'on perd beaucoup de joueurs. On perd beaucoup d'adhérents. Moi, je vois dans les clubs, bon, ici aussi, à Levallois, j'ai pas de problème, mais il y a moins de passion. Parce qu'on a besoin d'avoir une vraie passion pour ce sport. Alors, on a Roland-Garros, qui est très extraordinaire, mais il faut penser, bien sûr, aux jeunes qui vont arriver derrière.
Tu finis l'année à la 5e place mondiale. Et puis j'ai envie qu'on aille à Roland-Garros 88. On fait un petit saut dans le temps. Tu te sors difficilement de tes deux premiers tours en 5-7. Et en huitième, tu bats Becker aussi en 5-7 avec un magnifique débardeur sur ton polo Lacoste blanc et bleu.
Ah ouais, et puis t'as vu comme ça attaquait ?
Incroyable.
Service volé, retour volé. On était à l'attaque. Et puis c'était pas les conditions idéales pour nous. Hein.
Bah non.
Mais ça faisait peur hein, parce que ça frappait. Hein. Ouah ! Je me souviens quand j'ai revu ces images aussi. Qu'est-ce qu'on frappait ? Et ouais, 6-4 au 5e.
Ouais, et puis on sent qu'il y a une union avec le public, il y a communion.
Une grosse communion, mais il est vrai que comme tu le répètes, et j'avais pas, tu vois, parce que c'est vraiment la finale qui m'a marqué, j'ai fait beaucoup de matchs en 5-7. Et je suis arrivé cuit, quoi. Alors j'étais fort mentalement au premier set, mais après tout d'un coup j'ai fait ballon de baudruche, quoi. Cuit aux patates. Cuit.
Tu arrives avant cette finale face à Vilander et tu te dis quand même c'est pour toi ?
Oui, si tu peux. Je me dis oui, sauf que j'arrive quand même, comme je le dis, un peu émoussé, fatigué, un peu incertain, une peur incroyable, où je fais le match mais 15 fois dans la nuit, je dors pas très bien. Après, on peut dire plein de choses, mais... Et puis après, ça m'a échappé, quoi. Après, j'étais cuit. Parce que je pouvais pas jouer Vilander sans être... Parce qu'au début du match, je sers à 5-4 pour le premier set, quand même, en jouant un tennis, mais j'attaque bien. Mais après, plus de gaz, plus rien. J'avais qu'une envie, c'est de me barrer.
C'est vrai.
Ah oui, d'être comme Ratatouille et de me passer derrière la bâche. Parce que
tu sentais que tu pouvais plus.
Je ne pouvais plus. Et puis le public commençait à dire « Ouais, rentre chez toi ». C'est le public de Roland était particulier. Je pense qu'il a beaucoup progressé aujourd'hui. Très versatile. Hein, ouais. Et on te rappelle, il y a eu des matchs un peu de fou. Un match, moi, qui m'avait choqué. Jean-François Cojol qui joue Jimmy Connors, qui a balle de match. Et le public se met debout pour encourager Connors. Et l'autre, c'était un Français.
Ouais, c'est dingue.
Là, tu te dis, c'est chaud, quoi.
Ouais.
Hein, tu vois, c'est... Et puis après, on le sait ce qui s'est passé, le discours, voilà.
Et alors, le discours, ok, d'accord. Tu sens que ça t'échappe sur le
complètement. Oh là là, là, je mets les pieds dans le tapis, mais c'est pas un tapis, c'est un truc énorme.
Ouais.
Et comme je me sens mal, bah, je me dis, je m'en sortirai avec une pirouette. En disant, bah, c'est ça, le truc, en rigolant, sauf que c'est pas du tout en rigolant, que c'est pris avec de l'arrogance. Et en plus, je mets le pied, si tu te souviens, sur le truc, en disant.
Oui,
oh voilà, mais la connerie du mec, putain, la connerie du mec. J'ai honte, j'ai honte encore.
Mais c'est vrai, t'as honte.
Puis après, j'espère que vous avez compris mon jeu. Je reviendrai l'année prochaine pour gagner. Bon, bah non, c'est le pied dans le tapis. Et hop, premier tour.
Ça fait partie, c'est un regret aujourd'hui.
Ah pas bah, tous les jours.
Ah ouais,
quand je vais à Roland-Garros, j'y pense. J'ai raté la dernière marche. Mais c'est pas très grave. Parce que j'ai 91 qui a gommé et 92. Parce qu'après, on reviendra après pour 92, parce que le Vengeur masqué. c'était pas mal.
Après ce discours, il y a eu Bercy.
Ouais, non, mais attends, après ce discours, non, t'as oublié un truc important, les Jeux Olympiques, Séoul.
Alors ça, je l'ai pas, vas-y.
Ah, tu l'as pas, celle-là ? Oh, elle est belle. Bah, c'était Philippe Châtrier, et Philippe Châtrier, je l'appelle, parce que voilà, j'avais une désignation à Barcelone, la semaine avant Séoul. Et je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez pas me décaler au tournoi de Barcelone ? Je me réserve sur le tournoi, parce que c'est les Jeux Olympiques, ça, c'est quand même important. Non, tu dois faire le tournoi de Barcelone. Là, j'ai eu les boules, je l'ai fait, je perds. Après... Bien sûr, très mal conseillé à l'époque. Au lieu d'aller au village olympique, je vais à l'hôtel privé. Et là, je suis. Ouais, bah, il y en a d'autres qui m'ont suivi aussi. Au-dessus du bâtiment de la délégation française, c'était Thierry Rey qui était évidemment le capitaine de la délégation. Il avait mis Merci Riton en gros. Alors, je me suis fait mais déchirer. En plus, je joue un Coréen premier tour et je perds. La Ninja Turtle. Là, je suis au top du top. La presse me massacre. Je fais pas une bonne saison et je me retrouve à Bercy. pour jouer McEnroe au premier tour. Et là, mon gars, un combat de boxe à côté, c'est rien. Je rentre, je me fais siffler par 15 000 personnes, mais siffler hué. McEnroe il rentre, il se fait c'est l'idole. Et quand lui, dans l'échauffement, il tape dans la balle, ils font ouais. Moi, je tape, fait ouh. Tout l'échauffement. Et sur chaque point que je joue, quand je vais prendre la balle, il y a des gens dans les loges. Ouais, allez, casse-toi, c'est ça, connard et tout. Ah oui, je te jure, que des dons d'oiseaux. Et je réussis quand même à rester sur le terrain, à faire un bon premier set. Je perds 7-5-6-1. Et en fin de compte, ce match, j'ai beaucoup appris.
Qu'est-ce que tu as appris?
Je suis fier de moi, j'ai des couilles, comme on dit dans le jargon. Il y aurait plus d'une personne qui aurait. D'ailleurs, ils sont tous venus me voir, pas mal de joueurs, en disant mais bravo, moi je serais toi, je serais parti. Ouais. Tellement, c'était honteux, quoi. Mais ça m'a forgé mon caractère. Et puis par la suite, après, on s'en est servi pour cette fameuse.
Pour y a eu 91.
Pour 91, et puis après 92, là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est magique. 92. Bah 92, je suis pas bien au classement non plus, je suis un peu fatigué, pas bien moralement. Je m'entraîne, mais comme un mutant avec Frédéric Roche. On part en Normandie chez mon pote Christian Mahout qui avait une maison en Normandie. Et on s'entraîne physiquement. Mais alors, je te jure, des footings, du vélo, des trucs. Mais j'étais un monstre. Je courais comme un lapin. Mais je jouais pas beaucoup au tennis. Et puis. Dernier jour d'acceptation de la wildcard, on dit écoute, on te donne la wildcard, viens jouer. Attends, 91, les gens veulent te voir. Et puis Frédéric Roche me dit écoute, Henri, t'as bossé, tu peux pas savoir comme t'es physiquement, t'es au top. T'as pas besoin de beaucoup de matchs, toi, je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Et puis je commence, premier match, un peu difficile, deuxième, truc. Puis je fais demi-finale et je perds contre Petr Korda. Où avant, je fais un match extraordinaire contre Nicolas Sculti, où je suis mené 2-7-0, 4-2, 15-40. Les gens se barrent. Ils disent, bon, c'est Henri, fini. C'est fini. Mais tu sais que j'ai des gens qui sont barrés, qui habitaient pas très loin de Roland, ils sont revenus. Parce que j'ai fini le match, il était 21h30, presque. Et je gagne 6-4 au 5e, un truc comme ça. Un match de ouf. Et après, bien sûr, je perds malheureusement contre Petr Korda,
qui n'était pas dans le règlement à cette époque. Hein, on va pas rentrer dans le système.
Voilà. Donc voilà. Et j'ai fait un 92 exceptionnel, ouais. Fantastique.
C'est 91 qui t'avait.
91 et puis là le public. C'est là que est sorti, que Yannick a sorti et que j'ai marqué sur mon masque le Vengeur parce que le Vengeur masqué. Et que je suis revenu en ayant la fleur au fusil, d'Artagnan,
ouais. Faisant soulagé.
Ouais, mais c'était beau parce qu'il y avait le public, il y avait tout le monde, quoi. J'ai l'impression que c'est eux qui jouaient, quoi. Tu vois, j'étais leur enfant, leur fils.
Quand on parle avec des fans de tennis, on sent qu'il y avait la patte Lecomte. Ils ont des étoiles dans les yeux quand ils évoquent ton jeu. Tu étais un créatif.
Alors, bien sûr, on avait toujours un sens tactique, parce que sur la terre battue, tu dois, parce que c'est un jeu d'échecs. Moi, j'adorais cette surface. J'ai fait les meilleurs résultats, d'ailleurs, sur terre battue. Mais ce qui est important, c'est de se dire que lorsque tu es sur cette terre battue, tu dois être comme un tableau où tu peins, et tu dois t'adapter toujours en fonction de ton adversaire. Et c'est vrai que moi, j'étais très créatif sur terre battue. J'aimais vraiment... poser mes fléchettes, et puis surtout j'attaquais à outrance, ce que tout le monde trouvait ça incroyable. Mais en fin de compte, la terre battue, c'est la meilleure surface pour attaquer. C'est la meilleure surface pour monter à contre-temps, pour provoquer son adversaire, parce que t'as le temps. T'as le temps, en fin de compte. Et on a vu après beaucoup de joueurs, il y a Stéphane Edberg qui perd en finale contre Chang, on a eu Tim Henman qui fait demi-finale, on a eu Michael Stich aussi, tu as eu beaucoup d'attaquants, tu as eu Gottfried qui fait demi-finale de l'époque, des vrais attaquants sur terre battue. Parce que la terre battue, quand tu penses aujourd'hui, est la surface la plus rapide quand c'est bien, quand il fait chaud et sec. Le gazon, c'est plus lent. C'est la surface la plus lente presque maintenant. La balle, elle s'arrête. Les mecs, ils restent du fond de court, ils jouent. Parce que tous les meilleurs joueurs du monde ont voulu niveler cette surface, niveler la rapidité pour pouvoir aussi dominer ce tennis mondial.
Quel joueur tu détestais affronter ?
Bruguera, bah, tous les mecs de Bruguera, Villander sur Terre, qui d'autre que je détestais. Ça, c'était une horreur pour moi, parce que les mecs, la balle, elle tournait, il fallait que je prenne la balle tôt, prendre des risques. Alors, quand tu es en forme physiquement, c'est extraordinaire. Par exemple, j'avais battu un joueur qui s'appelait Ken Carlson. On l'appelait Duracell, parce que le mec, il était énervé du matin au soir. Je l'ai battu à Monaco, 6-4, 6-4, en 2 heures. Le score, on dit, ouais, là, c'est bien, bien. Mais non, 2 heures, j'ai couru comme un lapin. Je me faisais retour volé, service volé à la fin, mais j'étais cuit, quoi. Si je faisais en 3-7, je tenais pas. Bah après, ça te permettait aussi de travailler aussi ton physique, mais il y avait des joueurs, comme Marat Safini, quand il voyait Fabrice Santoro, il voulait perdre avant. Il dit, je veux pas jouer contre lui.
Tu as commencé à évoquer des joueurs un peu plus modernes. Quel regard tu portes sur le tennis d'aujourd'hui par rapport au tien ?
Déjà, un, c'est pas comparable. Nous, c'est une génération, on a commencé avec raquettes en bois, on a fini avec un tennis qui a beaucoup évolué. On était un peu des précurseurs de la préparation physique, beaucoup plus de professionnalisme. Aujourd'hui, on est dans une autre dimension, dans une autre ère. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que comment ils arrivent à jouer à une vitesse, un déplacement, c'est un truc, c'est parfois irréel, même. Ça manque un peu de champagne. Roger manque. Parce que voilà, quand Roger était à son top et qu'il jouait, c'était... Il y a eu une génération extraordinaire aussi avec Pete Sampras, avec Marat Safin. Ouais. Où ça aussi, tout ça, chaque génération a apporté son petit, cette petite touche de vitamine et de personnalité. Ce qui manque, c'est justement ça. C'est plus de... Il y a moins de... On arrive moins à s'identifier.
Par exemple, quand vous étiez sur les tournois, est-ce que ça vous arrivait de vous retrouver, de sortir ensemble en boîte de nuit, d'aller au resto ensemble ?
Ah ouais, on partageait. Nous, quand on gagnait les tournois, on partageait tous, même avec celui qu'on avait perdu. Mais il y avait un partage qui était différent, tu vois. Aujourd'hui, ce sont des Formule 1. Ce sont des joueurs qui sont préparés à la minute, qui mangent certaines choses, qui ont une préparation très spécifique, qui ont... une préparation mentale certainement que l'autre ne doit pas savoir. Toi, tout est millimétré. C'est devenu incroyable d'ailleurs.
Comment tu crois qu'il faudrait faire évoluer notre sport ?
Alors, si on n'évolue pas dans notre sport, on va mourir. Oui, parce que le tennis va dans une... On a la chance d'avoir, nous, un Roland-Garros. Si on n'a pas Roland-Garros, le tennis français, truc, alors, tu oublies. Je le vois parce que je suis président de club. Moi, j'ai la chance d'avoir... une équipe extraordinaire à côté de moi, avoir des profs fantastiques qui, eux aussi, qu'on a besoin aussi de bouger de temps en temps, hein, ce qui est normal, mais qui aiment vraiment le tennis. Et donc, nous, on refuse du monde. Mais bon, on est à Paris. Mais sinon, le tennis va très mal. Le tennis français, le tennis en lui-même, quand les trois fantastiques vont arrêter, là, heureusement qu'on a des... Bon, bah, là, tu vas me dire, tu as Medvedev, tu as Zverev... Mais Tsitsipas, heureusement qu'il est là, qu'il va donner un petit peu de fraîcheur au point de vue personnalité, parce que sinon c'est... Mais le tennis, si on ne fait pas attention, si on fait, on modifie pas certaines choses...
Qu'est-ce qu'on devrait modifier sur
le... Bah, je pense que déjà, c'est trop long.
Okay.
Aujourd'hui, le tennis est devenu un sport qui est très très long. Regarde, dans tous les autres sports, ils ont modifié un petit peu. Le cricket a été modifié. Dans d'autres sports, ils ont fait des temps beaucoup plus courts pour pouvoir permettre aussi à la télé d'être, toi, d'être là. Il va peut-être falloir modifier certaines choses. Tu vois, le LED, par exemple, il faudra peut-être le mettre d'actualité.
Okay.
Ça pourrait modifier certaines choses. On l'a fait plusieurs fois, notamment en double. Le LED, celui qui était au filet, pouvait le jouer parce que ça donnait quelque chose, tu vois, donner quelque chose de différent. Voir un petit peu aussi des modifications, ils en parlent, de dire, ben, peut-être pas tous les matchs en 5-7.
Okay.
Peut-être arriver en deuxième semaine et mettre les matchs en 5-7, qu'en deuxième semaine, ou pas. Je sais pas, je balance des idées, mais c'est pas stupide.
Ce serait dommage de raccourcir, parce que là, quand on se plonge dans nos souvenirs, on sent la passion des matchs en 5-7.
Mais c'était une autre mentalité, une autre génération. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de voir tout et n'importe quoi. Tu veux regarder de la voiture, tu vois la voiture. Tu veux regarder du surf, tu vois du surf. Tu veux regarder du basket, tu vois du basket. Tu veux regarder un autre sport. Tu vois même des sports que tu n'étais même pas... Ce n'est pas possible, imaginable, il y a 20 ans, 25 ans ou même 15 ans. Ça va très vite. Donc, si l'on veut que notre sport reste quand même dans une dimension internationale et dans un sport d'élite, on doit s'adapter. Regarde le golf. Le golf aussi, il est obligé un petit peu de s'adapter sur certaines disciplines. Même si on joue toujours 18 trous. Mais je veux dire, à ton avis, pourquoi la Ryder Cup est redevenue quelque chose d'incroyable? Parce que bah, hey, c'est du match play, c'est très excitant, ça n'a rien à voir avec le golf d'aujourd'hui. Pourquoi dans d'autres sports, c'est beaucoup plus facile à regarder et ludique? Parce que c'est plus rapide. Et en plus, si on a malheureusement... pas beaucoup de personnalité dans notre propre métier, ça va être compliqué. Regarde-toi pour faire les podcasts, regarde pour faire les interviews, ça devient insupportable pour avoir un mec pour lui poser deux questions. Tu vois même les joueurs de foot, même les... Là, j'ai vu encore l'interview du coach du Paris Saint-Germain, il répond pas, c'est langue de bois, il répond même pas à côté, il fait même pas l'effort de parler en français. Les mecs... C'est bon, quoi. À un moment...
Ouais, tu trouves que c'est un peu trop lisse.
C'est trop lisse. C'est, il faut faire très, très attention. Le tennis va pas si bien que ça. Regarde, quand tu fais un tournoi et que tu gagnes, regarde, bon, tu me diras, c'est que le double, mais Hugues Herbert, il gagne pour deux années consécutives le Masters. Lundi, c'est bon, mardi, on n'en parle plus, quoi. Ouais. Tu vois, le sport, c'est ça, hein.
Ouais, bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de dynamiser tout ça. Il faut essayer de reconquérir les gens et les personnes qui, malheureusement, nous quittent dans les clubs, parce que là, le tennis est devenu très difficile, compliqué. Pour bien jouer, il faut prendre du temps. L'impatience des gens, l'impatience des jeunes qui, eux, veulent tout de suite. Ils veulent tout de suite. Ils veulent pas bosser, ils veulent pas travailler. Ils veulent travailler, mais ils veulent que tout d'un coup, tu t'entraînes 8 jours, ça y est, t'es 10e mondial. Ah non, mon petit gars, c'est pas pareil, là. Tu vois? Donc c'est aussi une certaine impatience que le monde actuel nous délivre. Donc il faut faire attention et il faut aussi pouvoir s'adapter. Alors, je ne te dis pas que j'ai la science infuse, hein, je ne l'ai pas moi. Mais il faut aussi faire attention et aller dans les clubs pour trouver les futurs champions qui, pour moi, à mon avis, on a une petite dizaine de 15 ans.
Justement, Richard Gasquet parle d'une mauvaise période pour le tennis français. Comment tu l'expliques? Juste un trou générationnel ou est-ce qu'on peut mieux faire?
On a eu une génération, même si on a un peu critiqué par moment. Moi, j'étais le premier en disant « ouais, ils font pas tout pour regagner un grand chelem ». On a eu une génération quand même assez, assez exceptionnelle. Donc bravo à eux. Mais Richard, il en est conscient aussi, on est mal. Pourquoi? Erreur de la fédération. Erreur du DTN. Erreur de la logistique, de l'organisation dans différents clubs, dans différentes ligues, on a délaissé le haut niveau pour mettre en place Roland-Garros. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'au lieu de faire un entonnoir beaucoup plus restrictif et sélectif, on a agrandi le trou. On a dit, c'est pas grave, on va prendre plein de jeunes. Mais non, c'est pas ça qui te fait gagner l'élite. L'élite te fait que tu dois te battre avec d'autres joueurs pour te sélectionner et pour être dans l'élite mondiale. On est très fort en junior. On est les champions du monde des juniors. Nous. Ah, nous. Ouais. Mais dès qu'on lâche le petit dans le grand bain avec les requins, aïe. Alors, il est vrai qu'on a certains joueurs qui éclatent très tard. Comme tu peux voir, tu peux avoir des joueurs, bon, Hugo Gaston, qui lui, alors lui, il s'en sort du jeu, mais et bravo parce qu'il a un petit gabarit. Sa façon de jouer, elle n'est pas facile. Même si je pense qu'il doit encore vraiment évoluer dans son jeu, parce que tout le monde sait comment il joue maintenant. Alors il sort un petit peu de temps en temps. Mais on va avoir une période qui va être très très compliquée.
Hein. Tu disais 15 ans. Là.
Ah oui. Ouais, parce qu'on a raté le coche. Alors, on espère, et je le souhaite de tout mon cœur, qu'on va avoir des joueurs qui vont sortir. On ne va pas se retrouver comme la Suède. Rappelle-toi de la Suède. Regarde la Suède, il n'y en a plus un. Il y a ici, il y a Sinner maintenant. Il y en a juste d'arriver après, quoi, 15 ans?
Non, Ymer.
Ymer, pardon, pas Sinner. Ymer. Et après 15 ans ou 20 ans, plus personne. Tu vas en Suède aujourd'hui, les cours de tennis, tu vas voir qu'il n'y en a plus, il n'y en a presque plus, il y a des paddles partout. Parce que ils n'ont plus de leader. Il n'y a plus personne qui joue vraiment très très bien au tennis. Donc, autre sport. Et ça peut nous arriver, nous. Nous, on a la chance, on a Roland-Garros. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Angleterre pendant des décennies, pas des décennies, mais bon, il y a eu Tim Edman qui fait 5 fois la demi-finale. Après, il y a eu Murray qui a gagné. Mais sinon, avant, tu avais Jeremy Bates. C'était ma génération qui fait une fois quart.
Mais c'est dingue, alors qu'il y a Wimbledon.
Alors qu'il y a Wimbledon. Ouais. Regarde l'US Open, par exemple. Là, l'US Open, un Américain, le dernier, c'est Roddick. Qui a gagné après? Je sais pas, je me trompe, mais... L'Australie, là, ça commence... Heureusement qu'il y a
les Williams.
Oui, il y a les Williams, l'US Open, il y a les filles, mais c'est ce que je te dis pour ça. Ouais. Barty, Australie, ouais. Williams, US Open, mais là, Williams, elle, c'est fini, c'est, à mon avis, c'est fini, là. Les Australiens, c'était pareil aussi que chez les hommes, hein. Regarde, ils ont des caractères, ils ont des mecs, ils s'enflamment quand ils arrivent en huitième ou quart, puis après, il n'y a plus personne, mais le dernier, c'est Leighton, hein, c'est Hewitt. Avant, t'avais du Cash, t'avais du Rafter, aussi encore une génération incroyable, mais eux aussi peuvent se retrouver...
Donc pour toi, ce sont les individualités, ça va être... Des locomotives,
on a besoin de leaders, on a besoin d'une fédération forte et intuitive. Il faut qu'on aille voir ailleurs. On s'est endormi, je veux dire. On a eu les 10 ans de Jean Gachassin et ont été terribles. Et les 5 ans de Guidicelli, mais tu oublies. Une catastrophe. Alors on va dire, mais non, Murray, t'es sévère. Oui, on a eu ci, on a eu ça. Mais non, c'était des joueurs qui étaient déjà au plus haut niveau, qui ont fait de bons résultats, mais que la fédération a dit, ah ben tiens, on t'aide, on te donne un peu d'argent. Au lieu de donner de l'argent à des gars qui ont déjà beaucoup d'argent, il aurait fait mieux de l'investir dans, tu vois, peut-être des jeunes ou des rassemblements, des déplacements, aller voir aussi ailleurs, aller en Serbie, aller en Russie, aller en Biélorussie, aller voir dans d'autres endroits comment ils travaillent. Nous, c'est ce qu'on faisait avant avec Agel, Patricia Gelauer, avec Jean-Paul Lhot. On allait aux États-Unis, on allait en Australie, on allait dans différentes académies voir comment ça fonctionne. En Espagne, on ne va pas en Espagne. Attends, moi, si j'ai quelqu'un, un jeune, qui a un vrai potentiel, mais avec la fédération, je pars avec lui 2 mois préparer la saison de Roland-Garros sur terre battue. Le gamin, il va se prendre des raclées, où il va s'entraîner 6 heures par jour sur terre. Il va peut-être la possibilité de jouer avec Rafa. Mais t'imagines le truc? Non. Non, non, on reste à Paris. On est bien dans notre petit cocon. Tout va bien. Il faut aller voir ailleurs. Hein.
J'ai l'impression que ça commence un peu à bouger quand même, ça.
J'espère.
Certains jeunes...
Non, non, déjà, j'espère. Et puis, on a la chance d'avoir quand même un président comme Gilles Moreton qui connaît le tennis, qui a été 50e mondial, qui a fait la finale de Coupe Davis en 82. C'est pas n'importe qui, Gilles. Mais il ne faut pas se faire marcher sur les pieds avec les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du copinage. Tu vois, le copinage, c'est bien beau, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Hein.
Toi, tu aurais envie de coacher aujourd'hui?
Traîner, coacher, ça n'a pas été vraiment mon truc. Moi, j'ai fait beaucoup de choses avec mon club à Levallois. On fait beaucoup de choses avec Sofiane et Robert, qui, grâce à Sofiane, heureusement qu'il est là, parce que sinon, ça serait plus compliqué pour moi, mais... Mais on a une bonne équipe et on essaie de mettre en place. On avait délaissé le haut niveau un peu ici parce que c'était une vision du siège du LSC en disant non, on ne veut pas trop faire. Là, on reprend. Okay. Donc, on a deux très bons jeunes là et on est content. On va mettre une petite structure en place voilà, pour les aider. Mais de là, tu sais, si tu veux vraiment avoir une structure, il faut avoir un entourage, il faut avoir une équipe, il faut avoir aussi des jeunes qui ont envie de faire l'effort, de respecter ce qui a été mis en place. Tu sais, on a aidé plusieurs jeunes et joueuses ici, mais tu sais, il n'y a pas de secret, il faut prendre le temps, il faut être très humble, et surtout quand tu reviens de blessure, ça prend pas mal de temps. Donc, on ne peut pas non plus, tu vois, lorsque tu as été 15e mondial, et que tout d'un coup tu penses que tu joues toujours le même niveau, non. Tu repars à zéro. Hein. Et ça, c'est toute une organisation. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu cette fameuse période d'avoir deux coachs, trois coachs. Ça a bien fonctionné pour certains, d'autres pas. Aider quelqu'un pour lui donner une petite touche supplémentaire par moment, pourquoi pas. Ça serait intéressant. Mais de là à faire coach tout au long de l'année, et être le porteur d'eau et d'aller chercher les raquettes à corder,
ça
ne
t'intéresse pas.
J'aime bien qu'aussi on me... Parce que je sais, je l'ai vécu. Moi, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Si à un moment, tu commences à mal lui parler, pas le respecter, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant, les meilleurs le font, savent ce que c'est que d'investir.
Ouais.
Et de dire, voilà, il me faut du temps, tu vois. On n'est pas au foot ici, hein. C'est facile, dès que l'équipe ne joue pas bien, on vire l'entraîneur. On est surtout sur une compréhension et une organisation sur du long terme. Alors, il est vrai qu'il y a certains joueurs qui aiment bien faire la valse des entraîneurs, parce que c'est le joueur qui paye. Moi, je l'ai eu aussi à un moment, j'ai pris des choix qui n'étaient pas faciles, où c'était une remise en question, ou pour me donner un coup de collier, mais j'ai investi. Parfois ça fonctionnait, parfois ça fonctionnait pas. Mais c'est toi qui le décides. C'est pas l'entraîneur, tu sais.
Ouais.
C'est toi. Nous, on va te mettre en place ce qu'il faut. Si le gars, il dit non, j'ai pas envie de jouer une heure de plus, bah, il le fera pas. Ouais. Quand tu vois un Mbappé, quand tu vois un Jean-Pierre Papin de l'époque, quand tu vois un Cristiano Ronaldo, quand tu vois des Messi, quand il était bon, alors maintenant, il est plus sur la fin, mais un Cristiano Ronaldo, le mec, il joue encore une heure et demie de plus que les autres. Et le mec, tu te dis, je comprends pas. Tiens, à la 87e, pouf, il te met une lucarne. Ah ouais, mais simplement, le mec, il a fait 120 minutes, lui, d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? En plus. Donc, il n'est pas crevé. Et puis, quand il faut le mettre, bah, le génie, ça se travaille. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face et être conscient et honnête aussi envers soi-même et envers les joueurs, de dire, bah, moi, je suis content d'être 30e mondial. Bah, super! Mais tu ne te voiles pas la face. Tu ne dis pas que tu veux gagner quand tu fais pas l'effort.
On arrive à la fin et j'ai une tradition dans l'échange. Je me rends compte au fil des épisodes que mes invités ont une rage qui les habite pour accomplir ce qu'ils ont accompli. Elle se situe où, toi, la tienne ?
Moi, le bonheur, le jeu, parce que je suis un joueur de tennis. Je ne suis pas un joueur en dehors, pas du tout de casino, rien. Je suis un joueur, je mords la vie, je suis un joueur et un sportif dans l'âme. Je fais des courses automobiles, je suis pareil. Je joue au golf et c'est rare et je peux te le signaler, je ne joue pas au golf comme au tennis et je ne conduis pas les voitures de course comme je joue au tennis, mais c'est, je suis habité de bienveillance et de retransmission aujourd'hui parce que je suis bien dans ma tête et dans ma peau. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Et ce qui est important, c'est de retransmettre. Donc, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir retransmettre un peu aux enfants, aux jeunes ou des personnes qui viennent prendre quelques conseils. Mais il faut prendre le temps. Il faut s'assagir. Il faut être à la fois aussi reconnaissable et, de ce que on peut avoir et s'entourer. Le plus dur, c'est de s'entourer, tu sais. Si t'es mal entouré, après... J'ai eu mes périodes de mauvaises rencontres.
Ouais, t'as souffert dans ta carrière.
Ah oui, j'ai souffert, mais... Et en plus, généralement, quand tu fais une mauvaise rencontre, t'en fais pas qu'une. Tu vois, tu la bouffes... Et après, t'es plus serein. Mais je garde toujours cet enthousiasme, cette vérité, cette... comment dire... loyauté et moi, faut pas qu'on m'emmerde, quoi,
ouais.
Tu vois. Et je peux pas faire une chose si j'y crois pas. Et je peux pas. Et par contre, je peux faire un truc, même parfois bénévolement, parce que voilà, ça me fait plaisir et j'y crois. Mais il ne faut pas me prendre pour un lapin de 6 semaines, quoi.
Tu trouves que parfois on t'a pris pour un lapin de 6 semaines?
Oui. Oui, mais c'est parce que je l'ai bien voulu aussi. Ouais. Tu sais, faut être honnête, hein. C'est que par moments, voilà. Parce que tu voulais être aimé et que tu voulais aussi qu'on t'aime. Tu voulais que, aussi, certainement, et j'en suis sûr, te prendre pour quelqu'un d'autre. Mais c'est humain. On a tous eu le melon, le cigare, le chou, comme on dit. Ça te fait progresser. Quand tu l'as compris. Par contre, il y en a qui l'ont toujours. Hein. Là, par contre, c'est mort. Ça, c'est cuit.
Bon, ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Henri Lecomte.
Avec plaisir. Quand tu veux.
Henri, Riton, c'était comme vous voulez, mais c'était Lecomte tout entier. Merci à lui pour sa générosité du moment. J'aimerais remercier Laurent Aquenin et Adrien Noël aussi au studio L'Aude à la réalisation de cet épisode. Continuez à partager le podcast, à vous abonner, cela permet sa continuation et son évolution. Et j'aime lire vos retours et vos commentaires pour l'améliorer. À très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.